On raconte comment un jour, les esprits des ténèbres voulurent donner l'assaut au royaume de la lumière. Il parvint jusqu'à la frontière de ce royaume nitescent et voulurent en faire la conquête. Mais ils ne pouvaient rien contre le royaume de la lumière. Les esprits de ce royaume prirent alors une partie de leur propre royaume et la mêlèrent à celui des ténèbres. Grâce à ce mélange, il y eut, dit-on, dans le royaume des ténèbres, comme une sorte de substance qui le plongea dans une danse tourbillonnante chaotique, par quoi il reçut un nouvel élément, la mort. Tant et si bien que le royaume des ténèbres se consume constamment lui-même et porte ainsi en lui le germe de son propre anéantissement. L'essence de cette histoire est que le royaume des ténèbres doit être surmonté, non par le châtiment, mais par la douceur, l'amour. Non pas en s'opposant au mal, mais en se mêlant à lui, afin de changer le mal en tant que tel. Le mot Rome vient du nom du dieu Rama, signifiant celui qui pénètre, qui opère, celui qui va partout, celui qui émerveille. Rome signifie être humain et désigne une population originaire du nord-ouest du sous-continent indien, connue sous de nombreux noms: Romanichel, Romano, Chavo, Manouche, Manouchia, Égyptien, Gitan, Gitano, Zigan, Zingener, Zigani, Adziganos, Boumian, Bohémien. Les hypothèses qui en font les descendants de Caïn côtoient celles qui les affilient à Cham, fils de Noé. D'autres les font descendre des mages de Chaldée, des Atlantes, de Syrie, d'une tribu perdue d'Israël, des Égyptiens de l'époque pharaonique ou encore d'anciennes tribus celtes du temps des druides. Les Roms descendent ainsi de la divinité hindoue Rama ou encore de Ramachandra, avatar de Vishnu, de Tulbacain, le premier forgeron, des enfants de Marie-Madeleine, des manichéens de Phrygie, des Mayas, des Aztèques, des Incas. Tantôt bouchers, équarisseurs, tanneurs, bûcherons, fossoyeurs, éboueurs, chiffonniers, ferronniers, saltimbanques. Mais exerçant des métiers considérés comme religieusement impurs, ils n'avaient pas le droit d'être sédentaires. En l'an 1000, ces intouchables quittèrent le nord de l'Inde, vers le plateau iranien et l'Asie centrale. Ensuite, à travers ce qui est maintenant l'Afghanistan, l'Iran, l'Arménie, le Caucase, la Russie et la Turquie, comme charriers, éleveurs de chevaux, servants et éclaireurs au service des Mongols. Puis, avec la Horde d'Or et Tamerlan, les Roms parvinrent ainsi en Europe, en Anatolie et aux portes de l'Égypte. Puis au XIVe siècle, les Roms, vassaux des Tatars, atteignirent les Balkans. Au XVe siècle, l'Écosse et la Suède, puis enfin, traversèrent les Pyrénées, la France, l'Espagne. À leur arrivée en Europe, les Roms furent en général plutôt bien accueillis. C'est seulement à partir du XVe siècle que l'état de grâce entre les tribus nomades et les populations se renverse. Les villes leur ferment les portes, leurs attitudes marginales inquiètent. On les accuse de nombreux maux, vagabondage, maraude, vol de poules, de chevaux et même d'enfants. Ils deviennent indésirables et tombent dès la fin du XVe siècle sous le coup de décrets d'expulsion. Les récalcitrants sont emprisonnés, mutilés, envoyés aux galères ou même exécutés. En France, dès 1666, Louis XIV décrète que tous les bohémiens de sexe masculin doivent être arrêtés et envoyés aux galères, sans procès. Par la suite, il ordonne que tous les bohémiens mâles soient dans toutes les provinces du royaume où ils vivent, condamnés aux galères à perpétuité, leurs femmes rasées et leurs enfants enfermés. Au XVIIIe siècle, en Europe, siècle des Lumières, dans les encyclopédies françaises, à la définition pour bohémien, on pouvait lire espèce de vagabond déguisé, qui, quoi qu'il porte ce nom, ne vienne cependant ni d'Égypte, ni de Bohême, qui se déguisent sous des habits grossiers, barbouillent leur visage et leur corps, et se font un certain jargon, qui rôdent ça et là, et abusent le peuple, sous prétexte de dire la bonne aventure et de guérir les maladies, font des dupes, volent et pillent dans les campagnes. Au XXe siècle, les grandes vagues de migration cessèrent au moment de la Première Guerre mondiale. En France, une loi sur l'exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades les oblige pour la première fois à se munir d'un carnet anthropométrique d'identité qui doit être tamponné à chaque déplacement. Ce contrôle administratif et de police existe toujours avec le livret de circulation. La répression du nomadisme se conjugue avec le succès des théories eugénistes sur la protection de la race. La Suisse met en place une législation qui vise à détruire la culture tzigane. La police planifie en 1930 l'enlèvement des enfants sur 10 ans pour les placer et les rééduquer dans des familles d'accueil, des orphelinats ou des asiles psychiatriques. Des stérilisations sont pratiquées sous prétexte humanitaire pour limiter leur reproduction. Cette opération ne prend fin en Suisse qu'en 1972. La Suède pratique une politique similaire jusqu'en 1975. En Allemagne, le Parti national-socialiste renforce dès son arrivée au pouvoir une législation déjà dure. Bien qu'indo-européens, les Ingenieurs ne sont pas considérés comme des Ariens. Ils sont vite parqués dans des réserves, puis envoyés en Pologne, internés dans des camps de concentration, puis éliminés. Entre 50 000 et 220 000 Tziganes d'Europe sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils appelèrent cela eux-mêmes la dévoration. Les Roms n'écrivent pas, mais parlent. Parlent beaucoup et de nombreuses langues. Certaines leur sont propres, d'autres sont celles des contrées qu'ils ont traversées et où ils vivent. D'autres encore sont des dialectes nés de ces multiples influences. Les Roms parlent la langue de la région dans laquelle ils vivent et facilement plusieurs langues. Le romani, l'albanais, le serbo-croate, le turc, le slovaque, le hongrois, l'italien, l'espagnol, le français, etc. Il y a actuellement sur l'ensemble des Roms trois groupes linguistiques. Celui des Tziganes, vivant principalement en Europe de l'Est, au Proche-Orient, en Amérique et en Australie. Celui des Manouches, vivant en France, en Italie et en Allemagne. Et celui des Gitans, vivant dans le sud de la France, en Espagne et au Portugal. Quelques Roms ont développé des sabirs, des argots, tels que le calo, qui utilisent l'espagnol et les emprunts lexicaux à l'andalou et au catalan. L'anglo-romani, la langue des tinkers irlandais, le shelta, le lovari, l'héro-mungro en Hongrie, le nomade norsk en Norvège, le boyage, l'argot roumain, etc. Et encore mille métiers, teinturiers, éboueurs, chiffonniers, bouchers, carisseurs, tanneurs, bûcherons, chartiers, éleveurs de chevaux, charrons, fabricants de roues, charpentiers, menuisiers, ferrailleurs, forgerons, fossoyeurs, terrassiers, musiciens, montreurs d'ours, saltimbanques, prestigitateurs, diseurs de bonne aventure, etc. Donc, venu du dieu Rama, avatar de Vishnu, à la fois roi de Hongrie et de Bohême, fils de Caïn et de Noé, comte d'Égypte et duc des Carpates, passant par la Perse, l'Égypte, l'Inde, les plateaux iraniens et l'Asie centrale, l'Afghanistan, l'Iran, le Kosovo, l'Arménie, le Caucase, la Russie, la Turquie, l'Anatolie, les Balkans, la Valachie, la France, l'Espagne, l'Écosse, la Suède, tantôt Romanichel, Zingener, Bohémien, Gitan, Tzigan, Kaouli, Djat, Manouch, Tzigani. Traité en français, en espagnol, en hindi, en albanais, en roumain, en serbo-croate, en turc et en slovaque, par des phrygiens, des occitans, des tatars, des celtes, mongols, en chaldéen, sous les hauteurs de l'Atlas, entre le Tigre et l'Euphrate. Le voilà, l'ami voyageur, mêlé à tous dont il ne faut pas avoir peur. Il est ici, un ami intérieur, puisqu'on nous dit d'en avoir peur. Mais on ne laissera pas faire, car on aime les intrigues et les mystères, l'idée d'un monde sans frontières, et prendre part à ce voyage sur Terre.